J'aimerais ce matin m'attaquer à l'Himalaya en toute simplicité. Mais c'est vraiment le sentiment que j'ai quand j'ai eu cette pensée de vous apporter quelques méditations sur l'écriture. Et c'est imposé à moi ce texte que nous trouvons dans deux évangiles, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, dont le titre déjà me fait frémir, c'est les béatitudes. Quand j'ai eu cette pensée-là, j'ai dit non, pas aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Après, je me suis dit, c'est un peu compliqué. Et puis, la chose revenant, je dis, bon, d'accord. Et je dois avouer que les béatitudes, à la fois dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et aussi dans l'évangile de Luc, on n'a que ces deux passages qui parle des béatitudes dans les trois synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, et puis dans l'évangile de Jean, on n'a que Matthieu et Luc. Alors ça peut sembler un peu étonnant, mais c'est un texte que tout le monde connaît. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a toujours été un texte qui m'a gêné aux entournures dans sa compréhension, dans son application, dans sa portée. On va le lire dans la version de l'évangile de Matthieu, en sachant qu'il y a entre Matthieu et Luc de grandes différences. Mais on va rester ce matin sur les béatitudes telles que l'évangéliste Matthieu nous le présente. Voyant la foule, chapitre 5, verset 1, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. L'évangéliste Matthieu continue en disant « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Et je prendrai juste ce qui pour moi est la conclusion des béatitudes, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Et je le fais sciemment parce que je pense que dans la pensée de Matthieu, ce n'est pas un hasard si cette mention d'être le ciel, le sel de la terre est liée au texte des béatitudes. Alors voilà. Ce texte, qui est un texte central, je dirais même un texte révolutionnaire, un texte qui nous donne des directives et une direction à ce que c'est que d'être disciple de Jésus-Christ. C'est un texte qui est aussi totalement hors du sens commun. Ce n'est pas un texte très raisonnable, très logique humainement. Je dirais même qu'il est en dehors de la logique humaine pour un homme ou une femme qui voudrait s'inscrire dans son histoire et s'inscrire dans une vie. Vivre cela, ça me semble un petit peu risqué. Les deux évangiles de Matthieu et Luc nous donnent deux versions légèrement différentes des béatitudes. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus monte sur la montagne alors que Luc précise que Jésus descend dans la plaine avec ses disciples et donne les béatitudes, comme si ces béatitudes étaient autant d'actualité sur les hauteurs célestes que dans la plaine du monde. En fait, cette différence, c'est aussi le fait que ce texte est véritablement un texte essentiel, et que cette perspective sur les hauteurs et dans la plaine, au sens du point de vue, voir, était tellement à contre-courant de la vision humaine que Jésus, disent certains exégètes, pour expliquer cette différence entre Matthieu et Luc, dit mais il a dû le prêcher et l'apporter à plusieurs reprises pour que ça rentre dans l'esprit des disciples, tellement c'était à contre-courant, non seulement de la nature humaine, mais aussi de la vision messianique qu'en avaient Israël et les Juifs. On attendait un Messie qui vienne triomphant, puissant, qui bouterait les Romains hors du pays, etc. Et voilà que Jésus vient en proclamant ses béatitudes. Heureux ceux. Alors, dans l'évangile de Matthieu, il y a 9 béatitudes, mais on dit 8 béatitudes. Luc n'en évoque que 4, mais 4 construites de manière très différente. C'est 4 chez Luc avec heureux, et puis ensuite en contrepartie, malheur à. Heureux, mais malheur à ceux qui ne le vivent pas. Heureux, etc. Et j'ai envie de dire qu'il y a aussi une différence dans le contenu. J'ai envie de dire qu'il y a une différence au niveau altitude. Dans le sens où, d'un côté, Matthieu est davantage sur la dimension spirituelle des béatitudes, et puis Luc, lui, il est bien ancré dans le quotidien. Dans la première béatitude chez Matthieu, Matthieu parle des pauvres en esprit. Mais Luc va parler, lui, à des hommes qui sont pauvres. Alors je me dis, ça c'est mon mauvais esprit d'analyse, que Matthieu, il n'a pas voulu parler des pauvres pécuniairement, financièrement, parce que pour un collecteur d'impôts, il avait peut-être une mauvaise conscience de parler de cela. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Simplement, les deux auteurs ont des points de vue différents sur la montagne avec Matthieu, c'est-à-dire proche du ciel, et puis dans la plaine, liée au quotidien pour Luc, avec des objectifs aussi très différents, en donnant ce regard sur qu'est-ce que c'est que d'être heureux en tant que disciple et personne, homme, femme, suivant le Christ. La béatitude, après la pauvreté de l'un et de l'autre qu'évoque Matthieu, c'est ceux qui ont faim. Pour Luc, c'est ceux qui ont faim tout concrètement, c'est-à-dire qui n'ont rien à manger. C'est-à-dire qu'être un disciple, c'est aussi heureux ceux qui, malgré cette faim, vont pouvoir continuer à suivre, à être fidèles. Luc, lui, il dira « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». On est sur une autre faim, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire que Luc parle de la faim physique, des besoins naturels, ce que le psychologue Maslow disait, les besoins primaires, manger, boire, dormir, etc. Là, il y a, chez Matthieu, ceux qui ont faim, mais qui ont aussi cette faim et cette soif de justice. Luc met en phase et en place des situations concrètes et de vraies souffrances, des souffrances concrètes, mais Matthieu souligne des dispositions spirituelles qui sont tout aussi essentielles. Alors ce matin, moi je vais vous proposer de nous arrêter davantage sur les béatitudes qui sont apportées par Matthieu. Et j'écoutais les prières tout à l'heure. Il y a Christine qui a dit « Donne-nous, Seigneur, d'avoir des comportements et des attitudes qui te conviennent. » Ça, c'est concret, concrètement en lien avec les béatitudes. Avoir des attitudes et des comportements qui te conviennent. Être disciple, suivre Christ, c'est pas simplement recevoir le pardon des péchés, mais c'est rentrer dans une vie où cette rencontre avec Dieu, ce pardon reçu en Christ, nous amène à changer nos vies. Parce que sinon, nous ne sommes pas véritablement des disciples. Un de mes professeurs théologie disait « Ceux qui saisissent le salut et qui ne vont pas plus loin sont semblables à des enfants qui sont invités aux noces de l'agneau. Ils assistent et ils participent aux noces comme des enfants. Ils ne savent pas très bien ce qui se passe. Ils ne savent pas très bien quel est le sujet de réjouissance dans la salle des noces. Mais ils sont là, ils sont contents, ils courent dans la salle, etc. » Et puis les chrétiens qui rentrent dans une relation avec Dieu, qui ont leur vie transformée, qui sont dans une communion avec le Père, dans une soumission à l'esprit, ceux-là sont comme des adultes qui sont assis à table des noces de l'agneau et qui se réjouissent parce qu'ils comprennent profondément ce qui se passe. Quel est le sens profond du plan de salut de Dieu pour leur vie, mais aussi pour l'univers ? Voulons-nous être des enfants qui se réjouissent d'être à la fête ou des adultes qui savent ce que cela veut dire ? Laurence a prié et a dit, tu es venu non pour les bien portants. J'écoute, hein. Vous voyez, c'est pour, je note en plus, c'est pour vous dire, vous voyez, j'écoute. Hein. Tu es venu non pour les bien portants, mais pour les malades, les blessés et ceux qui souffrent. Ouais. Ça vous rappelle rien, ça ? Si on reprend les deux textes des Béatitudes, dans Matthieu 5, juste avant les Béatitudes, je dis toujours, ne lisons pas l'Écriture sans nous référer, je dirais, dans quoi ces textes s'inscrivent. Or, ces textes, les deux Béatitudes, alors ce n'est pas un hasard, pour Matthieu comme pour Luc, c'est Jésus parcourait toute la Galilée, l'enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Voyant la foule, le lien entre le récit que je viens de faire et les béatitudes, il se trouve au tout début, vous pouvez remettre le texte à son début au verset 1, le début des béatitudes, c'est « voyant la foule ». Alors, on ne peut que prendre conscience que les béatitudes découlent du regard de Christ sur la souffrance de ceux qui sont là. Voyant la foule, il monte sur la montagne, s'assoit, ses disciples s'approchent de lui, il ouvre la bouche et il les enseigne. Et ce matin, j'ai envie de dire, peuvent être exemptés de cette parole des béatitudes tous ceux qui sont bien portants dans une situation physique, spirituelle, de plénitude totale et qui n'ont besoin de rien. Si vous n'avez besoin de rien, sentez-vous exempté du champ d'application des béatitudes. Mais vous voyant ce matin, me regardant ce matin, le Seigneur dit « heureux ». Heureux seras-tu si. Et il balaye dans les béatitudes apportées par Matthieu tous les domaines qui peuvent transformer ma vie et me donner accès à un niveau de plénitude qui est ce niveau que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Voyant cette foule qui est là, voyant cette foule, Jésus se mit à enseigner. Et en fait, il est dit qu'il prêchait l'évangile, la bonne nouvelle. C'est un petit peu l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est comme cela que l'évangéliste Marc ouvre son évangile, il dit, son texte, son témoignage de Christ, il dit, voici la bonne nouvelle. Si vous avez besoin d'une bonne nouvelle pour votre vie, alors les béatitudes dont Christ va parler sont pour vous. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume, annonçant l'œuvre de la rédemption que Jésus s'apprêtait à réaliser au milieu des hommes. Mais il s'occupait, comme à l'habitude, des besoins concrets des personnes qui venaient à lui. Comme toujours, il guérissait, prenait en compte les douleurs diverses, délivrait ceux qui étaient liés par des puissances démoniaques, des paralytiques, et il les guérit. C'est tout simple, finalement, d'annoncer l'Évangile. Non ? Annoncer Christ, c'est cette simplicité. Alors, il n'est pas là, mais je sais qu'il y avait une ou deux personnes qui voulaient qu'on prie ce matin, Michel, pour avec l'onction d'huile. Alors, je ne sais plus qui m'avait demandé, voilà. Donc, on priera après, parce que c'est cela, annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la présence de Christ dans nos vies. Et il est gré. Mais voyant la foule, il va au-delà. Au-delà de l'apparence, au-delà des maladies. Il veut accomplir une œuvre d'ouverture sur le royaume de Dieu. Aller au-delà dans les profondeurs de l'être, dans les profondeurs de l'âme, bouleverser les limites qui sont imposées par le péché. Non, ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas vivre ça. Cela, c'est, j'en suis exclu, etc. Christ veut que notre être intérieur soit totalement libéré des limites que le péché impose ou que la société impose, voire que l'Église impose. Oh, t'es une femme, donc toi, t'es pas concerné par ça. Oh, toi, t'as vécu ça. Oh, toi, t'es trop âgé. Ou toi, t'es ceci, ou toi, t'es cela. Non, non. Christ veut que nous entrions dans la pensée la plus profonde pour chacune de nos existences. Donner à l'être humain la possibilité de devenir ce qu'il est dans la pensée de Dieu. Non pas disparaître, mais naître à nouveau en plénitude. J'ai vécu hier un moment assez exceptionnel en rencontrant une équipe pastorale d'une autre église et qui a traversé des tempêtes, des difficultés, qui s'est égarée et qui disait « mais nous sommes dans un retour à Dieu ». Et il y avait un responsable d'équipe pastorale qui disait « j'ai le sentiment depuis maintenant 2-3 ans que je me suis converti à nouveau ». Que je suis né à nouveau dans la vie que Dieu a prévue pour moi. Pff, j'étais là, je trouvais ça tellement beau. Les béatitudes, on pourrait dire presque que c'est un programme proposé par Jésus pour remettre en cause nos priorités dans notre recherche de bonheur. Qui n'a pas envie d'être heureux ? Je sais pas, il y en a là parmi vous ? Non ? Non, je ne veux pas vous... Tout le monde a envie d'être heureux. Heureux ceux. Eh bien, ce programme-là, c'est remettre vraiment en cause nos priorités dans notre recherche de bonheur. Ou bien un changement de paradigme qui s'impose pour l'être humain, qui, depuis le Jardin d'Éden, veut devenir comme Dieu. Mais lui donner de trouver son bonheur par ses propres moyens, loin de Dieu, c'est ça ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Je veux me débrouiller tout seul. Ainsi, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui acceptent de ne pas savoir par eux-mêmes et de dépendre de la grâce et de la révélation de Dieu. On est dans un changement de paradigme. Ce qui s'est mis en place au Jardin d'Éden, je n'ai pas besoin de Seigneur, de toi, je vais faire mon chemin tout seul. Je ne sais pas vous, mais alors s'il y en a un qui avait... ce désir-là, c'est bien moi. Moi, j'avais tellement peu de confiance en ceux qui m'entouraient. Je ne connaissais pas l'Église, je ne connaissais pas Dieu, donc mon salut ne pouvait venir que de moi. Rencontrer Dieu à l'âge de 16 ans et demi, ça a été supposer que ce paradigme-là, je sois capable de l'écarter, de dire « donc si j'accepte ton salut, je peux m'engager sur un chemin où toi, tu sois celui qui me conseille, qui me donne la bonne direction. Heureux ceux qui lâchent prise, qui soumettent leur intelligence à la lumière de l'Esprit de Dieu. Heureux cela, c'est cela ce premier, cette première... Heureux les pauvres en esprit. Moi, quand j'avais 16 ans et que j'ai commencé à entendre parler de Dieu et que j'ai lu les Béatitudes, moi, je lisais « Heureux les simples d'esprit ». Et je disais, attends, moi je ne veux pas de ça, moi je veux justement développer mon intelligence, je ne veux pas devenir professeur d'université, d'accord, mais quand même je veux développer mes capacités, etc. Alors je disais, heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux, je me disais, donc il faut raser, ratiboiser toute connaissance, intelligence, etc. Et c'est les simples d'esprit qui pourront rentrer. En fait, ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Elle dit ceci, elle dit « Heureux ceux qui lâchent prise et qui soumettent leur intelligence, comme c'était prévu dans le Jardin d'Éden, dans la soumission à Dieu, à t'écouter, Seigneur, mon intelligence va rentrer dans ta pensée, va se nourrir de ta volonté. Alors là, Seigneur, oui, je vais être heureux. » On peut être heureux avec sa propre intelligence. Hein. J'aime beaucoup la littérature et je vois des esprits brillants, magnifiques, etc. Et certainement qu'ils sont très heureux d'explorer des pensées, des domaines, etc. Mais si je reviens à cette proposition de Dieu au Jardin d'Éden, restez à côté de moi, ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais apprenez en étant à mes côtés. Eh bien, rentrer dans le salut, c'est reprendre cette position. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit humain, mais dont l'esprit va se mettre en adéquation, en relation avec l'esprit de Dieu. Cette démarche, ce premier point des béatitudes, c'est le combat de l'œuvre du péché original qui conditionne l'appropriation de l'essentiel et du véritable. Véritablement, nous revenons dans une position où nous suivons celui qui est le Fils de l'homme. Vous savez ce titre de Christ qu'on retrouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Le Fils de l'homme, ça veut dire cet homme tel qu'il était pensé, voulu par Dieu. C'est cela le titre de Christ, Fils de l'homme. C'est-à-dire cet homme qui devait apprendre de Dieu. Heureux les pauvres. Alors, en grec, c'est ptokos. Hein, heureux les pauvres, ptokos. Mais en hébreu, ce terme-là, les pauvres, ça se dit les anawim. Et en fait, vous le retrouvez, les anawim, c'était un terme très connu en hébreu qui désignait un groupe, le groupe socialement parlant de ceux qui étaient pauvres, qui vivaient de mendicité, etc. On retrouve dans 1 Corinthiens 1:28, Paul qui rappelle ceci, « Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. » Waouh ! Je vous le redis, c'est quand même génial ça. Les pauvres, si on accepte d'être pauvre de soi-même, de ses certitudes, de son indépendance, eh bien, Paul dira dans 1 Corinthiens 1:28, « Ce qui est d'origine modeste, et à ce moment-là, on s'aperçoit que être pauvre dans cette acception du terme, ça devient quelque chose qui rend possible le fait de rentrer dans les pensées de Dieu. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi. C'est-à-dire qu'il choisit ceux qui acceptent de se séparer de cette richesse humaine. Ça ne veut pas dire qu'on disparaît. Moi, je n'ai pas envie de disparaître. Et puis, je pars du principe que si Christ est monté à la croix, c'est que je devais avoir une certaine valeur. Moi, je combats cette idée de dire, « Ah, Seigneur, brise le vase que je suis. » Attends, Seigneur, si tu le brises, il va te servir à quoi ? Non, si tu es monté à la croix, ça veut dire que tu as considéré que ma valeur, le prix à payer, c'était la croix. Donc, j'ai de la valeur. Mais cette valeur-là, elle est souillée par le péché, remplie de choses qui ne sont pas saines, humaines, que j'ai cultivées. Alors ça, Seigneur, oui, purifie-le, sanctifie-le. Ah, de sa naissance au milieu des bergers, à sa mort entre deux larrons, le Christ a ouvert une voie paradoxale. Il a inauguré le royaume où les valeurs sont inversées. La surprise d'Hérode quand il voit des mages qui disent « Où il est le roi ?» Attends, on est à Jérusalem, tu es dans mon palais, vous êtes dans mon palais. Et puis, il est dans une bergerie. Ouais. Le royaume de Dieu inverse les valeurs. Ce qui a de l'importance, c'est les valeurs de Dieu et non pas les valeurs de l'homme. Alors, ces publicains, ces pauvres, c'était vraiment les prostituées qu'on peut pointer du doigt. C'est ceux qui vont accueillir le Christ. Ceux qui étaient des petits, des pauvres, des misérables. Les bergers, je le dis souvent à chaque Noël, en Israël, dans la culture juive, c'était des gens infréquentables parce qu'incapables de suivre les observances de la loi sur la pureté, la purification, la prière, et ils mangeaient des moutons qui étaient morts parce que il fallait bien en faire quelque chose. Donc des bergers, dans la culture juive et dans la religion juive, c'était des êtres impurs. Ouais, mais c'est eux qui étaient là lorsqu'il est arrivé, qu'il s'est incarné. Je suis venu pour ceux qui sont malades, ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont rejetés. J'en fais partie, Seigneur. C'est Bossuet qui disait « L'Église, dans son premier plan, n'a été bâtie que pour les pauvres. Ils sont les bienheureux citoyens de la cité de Dieu. » Moi, j'aime bien. Pendant des années, j'ai eu un gros bouquin de... Enfin, les sermons de Bossuet sur ma table de chevet. Je lisais ça régulièrement, pas tous les soirs, je lisais ça parce que c'était tellement prenant, comme un cri, une proclamation de la sainteté de Dieu, mais aussi de sa miséricorde et de sa bonté. Au temps de Jésus, comme au temps des prophètes et des psaumes, les Anaouim, donc ces pauvres, c'était ce groupe diffus constitué de tous les déshérités, les méprisés, les sans-famille d'Israël, et leur seule richesse, c'était Dieu. Alors, c'est ce qui a donné ce psaume 39 où le psalmiste dit « Je suis pauvre et malheureux, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. » Waouh ! « Mais le Seigneur pense à moi. » Ce sont les Anaouim, les pauvres selon Israël. « Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu. Ne tarde pas !» Les Anaouim, les pauvres, c'est ça, ils peuvent dire ça. Alors, on peut penser au jeune homme riche de Matthieu, chapitre 19, pour lequel la sanction sera catégorique quand il rencontre Jésus. Et Jésus, quand il s'éloigne, dit « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Si nous sommes riches de nous-mêmes, comment pouvons-nous être remplis de la pensée de Dieu, des qualités de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs? Si je suis riche de moi, comment la part de Dieu peut-elle grandir en moi? Alors on peut se référer dans cette pensée-là, heureux les pauvres en esprit, à cette parole évangélique qui dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». En fait, si nous sommes remplis de nous-mêmes, de nos valeurs, de nos pensées, de nos attentes, de nos espérances humaines, alors nous sommes effectivement en train d'essayer de nous prendre pour Dieu, mais en fait, cela ne peut pas fonctionner. Alors, c'est la traduction que l'on a ici dans la version seconde, mais j'ai une version, et je vais vous la proposer, qui moi, me touche particulièrement. Alors, ça va, vous arrivez à le lire là. Ouais, ça va ? Peut-être pas au fond ? C'est un peu juste. Mais je vais vous lire. C'est la version d'André Chouraki. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, je disais que quand j'étais jeune, ce texte-là me posait problème. J'avais l'impression que les béatitudes, c'était un texte qui était axé sur la résignation. T'es pauvre, reste pauvre et tu verras, le royaume de Dieu est pour toi. Moi, j'ai grandi dans les cités HLM où j'ai su ce que c'était que d'avoir faim pendant des années. On a développé toutes les stratégies. Je dis souvent à mes enfants qui n'ont pas connu ça que quand on voulait manger, on mangeait tout ce qui se présentait. Et qu'une des viandes qu'on aimait bien, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour acheter de la viande, on achetait de la mamelle. La mamelle de vache. Qui a mangé de la mamelle de vache? Ouais, ah, il y en a quelques-uns. Waouh! Quand je disais ça à mes enfants, ils me disaient, ça se mange la mamelle, oui. Puis les chats, ils avaient le droit au mou, vous savez, c'est les poumons. Ben, nous, on mangeait le mou. On faisait des recettes avec. Parce qu'on était pauvres. Et lire dans l'évangile que la première phrase des béatitudes, c'est heureux les pauvres. Ben, je dis, ben ouais, mais moi, je n'ai pas envie de rester pauvre. Je regardais en haut, je dis, je préférerais être comme eux. Hein. Et Chouraki a traduit ces textes-là d'une manière différente. Il l'a traduit En marche les humiliés du souffle. On se dit, waouh, là, c'est vraiment une forme qui est très différente de celle que l'on a dans la version second. En fait, pour Chouraki, il a commencé par traduire le grec en hébreu. Donc, parce que c'était un homme qui avait traduit l'Ancien Testament, qui maîtrisait tout à fait la langue hébraïque, et donc l'Évangile, il l'a d'abord traduit en hébreu. Or, en hébreu, le mot qu'on traduit habituellement par « bienheureux », c'est en fait un mot qui traduit « la droiture d'un homme qui marche ». Et c'est pour ça qu'il a traduit « en marche ». On dit « tiens, on est loin de bienheureux ». Mais « en marche » celui qui est debout, qui marche et qui est dans un élan de vie. Alors, j'ai trouvé que cette version-là me convenait davantage. Et ça me renvoyait, entre autres, au psaume 1, verset 1, « Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants », sous-entendu dans l'interprétation rabbinique, c'est que « Heureux celui qui marche dans la pensée de Dieu, et non pas selon le conseil des méchants ». Alors, j'ai choisi ce texte-là, « En marche les humiliés du souffle ». Le souffle, c'est l'esprit. Donc, on est bien les pauvres en esprit. Les humiliés, ceux qui sont humbles par rapport à l'esprit, au souffle intérieur qu'ils ont reçu de Dieu. En marche. Et là, tout à coup, je me disais, tiens, ce regard hébraïque des béatitudes nous montre aussi qu'on n'est pas dans quelque chose où on abandonne, on laisse tomber, on se dit, bon, voilà, je suis comme ça, il faut que je m'en satisfasse. Et puis, le Seigneur me bénira. Non, non, c'est en marche. En marche, en choisissant une autre manière d'être, de penser, de vivre, selon la révolution qu'apporte Jésus-Christ par son salut. Heureux, les humiliés du souffle. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que leurs pensées, qui en sont dans une position d'humilité par rapport à leur conception, leur pensée, leur construction mentale, et psychologique et intellectuel, mais qui font preuve d'humilité en se disant « l'essentiel est en Christ ». En ce sens-là, je suis tout à fait charismatique. L'Esprit de Dieu en moi est essentiel pour qu'il corrige la déformation de mon esprit et de mes pensées qui ont été influencées par mes souffrances, par le péché. Est-ce que je peux être un humilié ou un humble de l'esprit. Le royaume de Dieu est pour eux. Et j'aime bien cette idée que bienheureux en hébreu, c'est la droiture de l'homme qui marche. Ça veut dire que les béatitudes invitent à se mettre en marche. Les humiliés, les endeuillés, les humbles, les affamés et assoiffés de justice, les cœurs purs, les faiseurs de paix, les persécutés pour la justice, nous sommes invités à nous mettre en marche d'une manière différente, animés et transformés par le salut de Jésus-Christ. Et ça, mes amis, ça fait que les béatitudes, vues, relues et acceptées, c'est un texte véritablement subversif. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'un jour, les pharisiens et les membres de l'aristocratie sacerdotale, en accord avec la puissance d'occupation romaine, réalisèrent l'union sacrée et s'entendirent pour condamner à mort celui qui avait prononcé de telles paroles. Il faut le tuer ! Il remet en cause l'ordre établi. Amen ! Jésus-Christ est venu pour remettre en cause l'ordre établi. Alors, les courbés, les penchés, parce que c'est un peu comme cela que c'est aussi interprété, le grec ptokos, que Luc, mais que Matthieu utilise aussi, hein, les pauvres, ça veut dire aussi ceux qui sont courbés et penchés, ceux qui peinent et ploient sous le fardeau de la vie. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui peinent, qui ploient sous le fardeau de la vie, des difficultés, des épreuves? Alors, bienheureux êtes-vous parce que Christ en vous vous donne accès à la dimension du royaume de Dieu maintenant. Est-ce que tu es en train de te dire, je suis courbé, penché, écrasé? J'aime beaucoup ce texte de la guérison de la femme qui était penchée, qui ne pouvait pas se redresser. C'est tellement une belle image de l'œuvre que Dieu veut faire. Même si je suis courbé physiquement, à l'intérieur, j'ai la rectitude de celui qui marche. Je suis droit et debout. Amen. Amen. C'est l'œuvre et la volonté de Dieu pour nous. Et puis, on se dit qu'il y a d'autres termes qui sont utilisés. En marche, les endeuillés, oui, ils seront réconfortés. Hein? Verset 4. En marche, c'est vraiment le terme qui est utilisé en grec. Ceux qui sont dans le deuil. Et on s'aperçoit que cette promesse d'Ésaïe au chapitre 61 concernant le Messie, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Le Messie est consacré par une onction. C'est pour ça qu'on l'appelle Christ ou Messie. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez le lien ? Aux pauvres, pensez ceux qui ont le cœur brisé, proclamez aux prisonniers la libération et consolez les affligés. Les endeuillés, on peut dire, est-ce que ce sont ceux qui ont perdu quelqu'un qui sont dans le deuil ? Non, c'est à la fois cela, mais c'est aussi tous ceux qui sont amenés à lâcher prise et à faire le deuil de choses qui, dans leur vie, n'ont plus leur place. Hein ? Est-ce qu'il y a des choses qui, dans ma vie, sont essentielles que je ne veux pas lâcher ? Mon droit à, ma position, ma capacité à, etc., etc. Quelles sont les choses que le Saint-Esprit me dit ? Je te demande de le laisser de côté. Mais bien sûr, c'est de l'importance pour toi. Le regard que tu poses sur toi, ce que tu es, mais je te demande de lâcher cela, d'en faire le deuil, parce qu'à la place, je veux te donner une nouvelle identité. J'ai travaillé pendant 24, 25 ans ou plus, enfin même plus, parce que je me suis occupé aussi des... J'ai accompagné des SDF qui étaient cassés par la vie pendant une douzaine d'années. Comment ces personnes ont pu, à un moment donné, basculer dans la dépendance, dans la désocialisation, et comment leur donner la possibilité de croire qu'il est possible de se réapproprier son identité en Christ. J'ai vu le miracle d'un SDF de longue date, quoique jeune, et qui s'est converti, qui a pris son baptême et qui s'est donné à Christ, alors que c'était dans le cadre de mon travail, donc ça, il a fallu gérer cette particularité, et il a retrouvé pleinement son identité. Il est redevenu un homme, il est redevenu un père, il avait perdu de vue et ses enfants et son ex-femme, etc. Il s'est réapproprié l'identité qu'il avait en Christ. Mais il a dû faire le deuil quand même de certaines choses qu'il considérait comme essentielles. Avec beaucoup d'humilité, il a lâché prise. Et il s'est redonné à Christ. Heureux les endeuillés, ceux qui font le deuil de choses qui ne sont pas de la volonté du Seigneur. Tu as peut-être besoin de faire le deuil. J'ai peut-être, certainement, besoin de faire le deuil de certaines choses pour rentrer dans les promesses de Dieu. Hein? En marche les humbles. Je ne vais pas faire toutes les... Je vous ouvre ce texte-là, mais celui-ci, il me tient à cœur. En marche les humbles, car ils hériteront la terre. Alors déjà, hériter la terre, pour quelqu'un comme moi qui a connu... la grande pauvreté, je me suis dit, tiens, le jour où je me marierai, peut-être que ma future femme, elle aura un oncle en Amérique. C'est jamais. Il y a des héritages comme ça, vous dites. En fait, il y avait quelqu'un en Amérique. Hein. Bon, en réalité, il n'y avait pas grand-chose, ou on ne l'a pas connu, mais en tout cas, elle avait un oncle d'Amérique. J'ai rêvé quelque temps. Voilà. Mais ce texte-là, heureux les humbles, ceux qui font preuve d'humilité. Et ça m'a renvoyé, Michel le comprendra, à l'humilité, la beauté de la sainteté. Merci. De Murray, c'est un homme qui a été ce qu'on appelle du courant piétiste, du protestantisme à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et il a écrit cet ouvrage qui dit « L'humilité, la beauté de la sainteté ». Et il y a trois phrases que j'ai retenues. La seule preuve réelle de notre sainteté sera notre humilité devant Dieu et devant les hommes. La seule preuve réelle de notre sainteté. On dit souvent, les chrétiens, c'est les saints. Ouais. Je ne sais pas si quand je passe dans la rue, si dans ma famille, si dans l'église, on dit « Ah oui, Jean-Marc, c'est un saint ». Je ne sais pas. Vu mon caractère et ma personnalité, parfois je me dis « Je marche plus sur les pieds qu'à côté ». Donc, pas sur les pieds des autres. Hein. Je dis « Est-ce que, quelque part, je travaille à l'œuvre de l'esprit dans ma vie, dans ma personnalité, pour que l'humilité prenne plus de place ?» C'était le trait de caractère de Christ. Il n'est pas venu en tapant sur la table en disant « Je suis le roi des rois », etc. Non, il est venu dans toute l'humanité, toute l'humilité de celui qui s'abaisse. Est-ce que je n'ai pas à être aussi, voilà, quelqu'un qui ne se revendique pas de ses dons, de ses capacités? Regardez comme je suis beau, comme je suis intelligent, comme je suis fort. Non, l'humilité, la seule preuve réelle de notre sainteté sera notre humilité devant Dieu et devant les hommes. Il disait aussi, la racine de toute vertu et de toute grâce, de toute foi, de toute adoration acceptable, c'est de reconnaître que nous n'avons rien. Ah, je suis un petit peu, je dis, comment le Seigneur, exagère pas, il y a quand même des petites choses qui ne sont pas achetées chez moi. Non, c'est dans l'idée de se réfugier, de se confier dans des choses qui sont à nous et de reposer notre confiance là-dessus. Ça ne veut pas dire que certaines choses, une fois sanctifiées, ne peuvent pas être utilisées par Dieu. Elles sont à travailler si je m'appuie dessus, sur mon intelligence, ma capacité à, etc. C'est de reconnaître que nous n'avons rien. Nous recevons tout de Dieu et devons nous courber devant lui dans l'humilité la plus profonde pour attendre tout de sa grâce. Les dons que nous avons, et je dis toujours, nous sommes pentecôtistes ou charismatiques et nous sommes ouverts aux dons de l'Esprit. Et je crois aussi que nous avons des dons naturels. Et quand je vous regarde, pour la plupart, pour ceux que je connais, je sais quel don je reconnais. J'étais dans un conseil pastoral hier et je disais, oui, vous avez des dons au milieu de vous. Il s'agit de les discerner entre vous. Et puis, vous avez la responsabilité de discerner les dons qu'il y a dans l'Église et de les faire grandir. Et c'est ça qui glorifie Dieu. Mais si les dons naturels que j'ai, je m'en glorifie, alors ils deviennent inutiles. Andrew Moore disait aussi, comme c'est dans la hauteur et la largeur de la gloire du soleil. J'aime beaucoup, alors ça, c'est pour les poètes de l'Église. Écoutez bien. C'est comme dans la hauteur et la largeur de la gloire du soleil que se révèle la petitesse de la poussière qui joue dans ses rayons. Ainsi, l'humilité consiste à prendre notre place devant Dieu pour n'être rien qu'une poussière dans la lumière de son amour. Non ? Ça vous plaît ? Hein ? On n'est pas grand-chose devant Dieu. À peine plus qu'un grain de poussière devant la lumière du soleil, mais quand vous voyez le rayon de soleil, tout ce qui est au milieu, là, devant nos yeux, émerveillé, reflète la lumière du soleil. Puissions-nous être de ces poussières qui laissent briller la gloire de Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là, mais ça vous donne un petit peu un aperçu de cette manière de relire les béatitudes avec des petites clés qui permettent non plus de le voir comme un texte qui dit bah, « bouge plus, reste immobile ». Non, en marche avec l'Esprit de Dieu, en marche pour entrer dans les dimensions que Dieu a prévues pour nous. Je ne voulais pas prolonger, mais alors ça, c'est un de mes morceaux préférés. En fait, dans le texte original, on a « heureux les miséricordieux ». En fait, en hébreu, c'est pas, on ne vous trouve pas. Alors maintenant, il y a même un autre, j'ai vu une autre, c'est la « heureux la ». Ah, j'ai oublié le terme, mais aujourd'hui, ça ne se comprend plus. En fait, en hébreu, la compassion de Dieu, c'est la matrice de Dieu, c'est le mot « réem ». Ça, c'est un de mes mots préférés. Quand Dieu dit « j'ai de la compassion pour vous », il dit « je vous porte comme une femme porte le bébé dans sa matrice ». Et donc, Chouraki, toujours, quand il y a la miséricorde ou la compassion, il parle de la matrice. Et dans le verset 7, en fait, « en marche les matriciels », c'est ceux qui sont portés dans les tripes de Dieu, comme une mère porte son enfant. Moi, je trouve que c'est magnifique. Et après, il y en a qui disent, oui, donc, le ministère féminin, on n'en parle jamais dans la Bible. Mais lorsque la Bible parle de la miséricorde, d'un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu qui porte son enfant comme la femme porte son enfant dans sa matrice, le réem. Donc, c'est une image qui me parle énormément et qui dit, heureux ceux qui sont des hommes et des femmes qui ont cette conscience d'être portés dans l'intimité de Dieu parce qu'ils seront matriciés, portés véritablement, mais ils engendreront aussi par leur compassion des hommes et des femmes qui auraient cette conscience-là d'être portés par Dieu. J'ai répondu. Seigneur, merci de ta parole qui nous ouvre des perspectives tellement révolutionnaires. Donne-nous d'accepter d'être bousculés, d'être interpellés pour que ta parole transforme nos pensées. Et comme le disait Christine dans sa prière, que cela puisse changer nos comportements, nos attitudes, notre manière d'être et de faire, pour que ce soit remplacé par ta nature, ta pensée. Ce texte des Béatitudes, Seigneur, donne-nous de le vivre, pas simplement de le lire. Donne-nous d'être transformés par ton esprit, afin que véritablement nous devenions ce que toi tu as prévu. Nous ne sommes pas appelés à disparaître, nous sommes appelés à devenir, à grandir et à laisser ton esprit rendre vivant tout ce qui en nous a été déposé par toi et que nous ne voyons pas encore. Mais oui, Seigneur, nous avons faim et soif de justice dans notre propre vie. Fais-nous advenir. Amen.